C'est quoi ta magie? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast trimestriel C'est quoi ta magie? Créé par Mystics Moons. Et chaque trimestre, tous les trois mois, nous accueillons un nouvel ou une nouvelle invitée pour partager avec nous de sa pratique magique. On découvre ensemble, on déconstruit et on s'ouvre à d'autres façons de voir, de comprendre et de pratiquer la magie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir V. Bataille, qui vient en ce jour partager sa pratique magique autour de l'inspiration, de l'imaginaire et de la créativité. Si vous voulez en savoir plus sur notre invitée, vous pouvez la retrouver sur Instagram et sur YouTube. Sur Instagram, vous la retrouverez à V. Bataille tout attaché. V-A-E-B-A-T-A-I-2-L-E. Et V Bataille également sur YouTube. Ces podcasts sont enregistrés de manière complètement bénévole avec les outils et les moyens du bord. J'ai conscience que le son n'est pas parfait, mais l'essentiel y est puisque l'objectif est de débattre autour du fond et des idées. Et donc j'espère que la forme vous suffira à vous emporter dans l'univers de V Bataille. Je vous laisse avec le podcast de ce trimestre 2020. Et je suis donc ravie aujourd'hui de recevoir V Bataille dans ce deuxième épisode du podcast C'est quoi ta magie? Bonjour V Bataille.
Salut, comment ça va?
Ça va bien, merci beaucoup d'être avec nous.
Oh, ça me fait tellement plaisir, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça ensemble, là. Ça fait du bien.
Complètement. Et en plus, il faut savoir que V Bataille nous vient du Québec, donc c'est oui. Toute une organisation et je te remercie pour ça, de prendre le temps malgré le décalage horaire pour faire ça avec moi.
Ah ben oui, mais on s'habitue, je pense, hein, rendu là. Moi, j'ai maintenant les deux heures sur mon téléphone, l'heure de la France, l'heure du Québec, parce que je suis tellement chez vous souvent, même si pas physiquement. Mais mentalement, je suis chez vous souvent, donc j'essaie de toujours regarder les deux heures.
Et du coup, on est d'autant plus ravis parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est du coup l'imaginaire, l'inspiration et la créativité. C'est du coup plus qu'un sujet, c'est ton approche de ta pratique magique. Et cette approche, tu vas aussi nous la partager dans une retraite en France, en Normandie, en 2021. Et c'est aussi à cette occasion qu'on te reçoit pour que tu puisses nous en dire un petit peu plus et qu'on puisse comprendre comment tu envisages ta pratique et ce que tu as envie de transmettre.
Oui, mais ça me fait tellement plaisir de parler de ça parce que, comme tu le dis, c'est non seulement le centre de ma pratique, mais c'est aussi la source, le centre de mon quotidien en général. Vois-tu, la créativité, l'inspiration et l'imagination, c'est un peu ma trinité à moi, puis je suis vraiment, vraiment super contente d'en parler aujourd'hui, puis j'ai encore plus hâte d'en parler sur toute la semaine qu'on va passer ensemble pour la retraite. Pour moi, c'est un cadeau. De pouvoir parler de ces sujets-là parce que c'est tellement intéressant, il y a tellement de choses à dire, puis c'est quand même rare qu'on entend parler justement de ces sujets-là comme centre général, comme source générale d'une pratique. Par contre, j'ai vraiment l'impression que ces trois aspects-là, ces trois notions-là, ou ces états-là même, font partie de toute pratique. Mais je pense que c'est intéressant de les mettre en lumière aujourd'hui comme source principale de pratique. Je ne sais pas si tu me suis.
Complètement. Oui, je pense que ce sont, dans les pratiques ésotériques, des outils. L'imaginaire, ouais. L'inspiration, la créativité. Et pour toi, ce n'est pas un outil, c'est ce qu'est ta pratique. Et justement, c'est de ça qu'on va parler et d'essayer de comprendre c'est quoi la différence finalement entre quelqu'un qui va se servir de l'inspiration ou de la créativité et quelqu'un pour qui c'est la source même de sa magie.
Oui, exactement. Puis, mais c'est ça, on peut peut-être commencer aussi par différencier un petit peu les trois. Tu sais, de les mettre un peu sur une espèce de podium puis de les personnifier comme ça puis de les expérimenter d'une manière un peu différente aussi, parce que vois-tu, moi, ce que je mets au-dessus de ce podium-là, c'est la créativité en soi, parce que la créativité, c'est littéralement le pouvoir de créer. sais, c'est en fait la source de toutes ces notions-là, si je peux dire ça comme ça. L'imagination, je la vois comme un terrain de jeu, là où la créativité s'anime, là où on peut expérimenter et tout ça. Et l'inspiration, elle, je la vois comme les outils de pratique. Donc, ce qui nous permet d'assembler nos inspirations, c'est la créativité. Donc, les trois sont reliés. Les trois sont reliés, ça crée un tout et tout ça. Par contre, les trois sont bien différents. Donc, pour moi, la créativité, là, c'est littéralement, non, ben, en fait, non seulement le pouvoir de créer, mais c'est d'être en mesure d'assembler nos inspirations et ce, sur le terrain de jeu que nous offre l'imagination. Donc, voilà, c'est un peu comme la base de tout ça, la base de ma pratique aussi, puis d'apprendre à justement explorer tout ça, utiliser nos sens pour explorer tout ça. Ça crée vraiment une belle fondation de pratique et surtout quand on pratique la magie du chaos, par exemple. Parce que, on le sait, dans plusieurs autres pratiques, il y a des fondations très strictes, des codes à utiliser, des principes à intégrer, à assimiler. Par contre, dans la magie du chaos, c'est un peu plus libre et tout ça, et je pense que c'est essentiel pour tout pratiquant de la magie du chaos d'être apte à considérer vraiment le potentiel de la créativité, de l'imagination et de l'inspiration aussi.
Justement, est-ce que tu peux juste très très rapidement, parce que c'est pas le sujet du podcast, mais pour les personnes qui connaissent pas du tout la magie du chaos, qu'est-ce que c'est en trois grandes
En
lignes?
trois, quatre mots. Ben en fait, j'ai lu, vois-tu, j'ai lu beaucoup de livres sur la magie du chaos et ce qu'on a, je crois, à retenir de cette pratique-là, c'est simplement la liberté de créer. C'est beaucoup plus que ça, évidemment, mais la magie du chaos est basée sur six principes de base qui te permettent justement de créer à ta manière, comme une fondation, six piliers importants qui justement t'offrent la possibilité de créer ce que tu veux et de faire ce que tu veux dans ta pratique. Par contre, la magie du chaos n'est pas le chaos en soi. Donc, un de ces principes-là, c'est justement l'excellence technique, là où on est apte à être assez mature, assez précis dans notre approche pour garder de l'ordre dans tout ça. Donc, le chaos ne vient pas sans l'ordre et l'ordre ne vient pas sans le chaos. Donc, c'est souvent le premier, comment je peux dire ça, la première peur qui s'évoque en nous lorsqu'on commence à traverser la magie du chaos. Est-ce que c'est vraiment le chaos? Est-ce que c'est vraiment le désordre? Est-ce que c'est simplement l'ombre ou tout ça? Mais non, au contraire, ça vient avec une proposition d'excellence technique vraiment, vraiment importante. Et surtout lorsqu'il est question de créativité aussi, c'est important de mettre de l'ordre justement dans ses inspirations pour être en mesure d'assembler, parce que c'est ça la créativité. C'est être apte à assembler ce qui est déjà ce qui a déjà été inventé pour inventer quelque chose de plus à notre image. Donc, je peux résumer la magie du chaos un peu comme ça, sans rentrer dans tous les grands détails.
Bien sûr.
Mais pour moi, cette approche-là me permet d'être libre et de créer à ma manière, dans ma solitude aussi. C'est une pratique qui est très solitaire. Parce que justement, c'est difficile de travailler avec les autres quand on n'a pas tous les mêmes codes, parce qu'on arrive un peu à créer nos propres codes avec la magie du chaos. Donc, c'est pour ça que c'est une pratique un peu plus solitaire aussi. Non moins fascinante, mais plus solitaire dans son approche.
Justement, de ce que tu disais de la créativité, de l'idée de l'ordre, ça me fait penser à quelque chose que j'ai étudié dans mes vies passées.
Oui.
C'est que la créativité, c'est sortir du cadre, mais que pour sortir du cadre, il faut un cadre. Et c'est
Exactement.
un peu l'idée, je trouve, que tu as partagée et je m'y retrouve pas mal.
Ouais, parce que plus on travaille avec la spiritualité, son évolution, son cheminement et tout ça, plus on se rend compte que tout est relié, évidemment. C'est une des premières notions de base que nous propose la spiritualité et tout ça. Et c'est pour ça que je parlais justement de l'ombre sans la lumière n'existe pas et vice-versa. Et aussi le cadre, comme tu le dis si bien, n'existe pas s'il n'y a pas un peu de chaos au travers de tout ça.
Et du coup, tu nous as présenté les trois, tu as commencé à les relier en expliquant que la créativité, c'était le socle, l'imagination, le terrain de jeu, l'inspiration, un outil. Est-ce qu'il y a d'autres choses à préciser sur le lien entre les trois? Parce que ça a été une question qui est beaucoup revenue, parce que donc nos auditeurs peuvent poser leurs questions en amont. Et il y avait cette question de, OK, mais comment ils fonctionnent ensemble?
Mais en fait, ce que je proposerais peut-être, c'est comme un peu un étape par étape.
Ouais, très
Un
bien.
étape par étape parce que, premièrement, si on prend la créativité, qui est pour moi, comme je te disais, le bout de la pyramide, là, le sommet du podium, si je peux dire ça comme ça, la créativité, tous les êtres humains sont dotés de créativité, tous les êtres humains sont dotés d'imagination aussi, puis d'être aptes à entrer en contact avec les inspirations. Donc, comme je le disais un peu au départ, la créativité, tout d'abord, c'est de comprendre comment elle fonctionne et cette créativité-là fonctionne par l'assemblage dans tous les cas. L'être humain est doté de créativité justement pour être apte non seulement à créer des projets tels qu'on fait dans nos cheminements spirituels et tout ça au niveau artistique aussi, mais non seulement au niveau artistique, mais aussi au niveau de solutions, de trouver des solutions dans la vie, de résoudre des problèmes et tout ça. Donc, la créativité, c'est d'assembler nos connaissances, d'assembler nos bagages, d'assembler nos inspirations, évidemment, dans un cadre qui est plus artistique, d'assembler notre passé, d'assembler nos émotions et tout ça dans le but de créer des solutions à notre image. Donc, on essaie souvent, quand il est question de créativité, on essaie de créer quelque chose qui n'existe pas. Mais au contraire, pour avoir une bonne idée qui nous appartient, pour créer des projets, par exemple, qui sont à notre image, des projets uniques et tout ça, ceux qui sont aptes à le faire, c'est qu'ils ont compris qu'il est nécessaire de rassembler nos inspirations. De créer un portrait d'ensemble, une peinture d'ensemble avec toutes ces inspirations-là pour être apte à créer une fondation, à créer un projet d'ensemble qui nous ressemble. Donc, c'est un peu ça la créativité. C'est d'assembler nos connaissances, nos bagages pour trouver des solutions face à nos conflits aussi, face à un problème ou ainsi de suite. Donc, la créativité, ce n'est pas seulement relié au système artistique, si je peux dire ça comme ça, mais à multitude de trucs différents. La créativité, elle se résume par ça, par l'assemblage. Et pour moi, il n'y a aucune différence entre assembler et créer. Parce qu'on ne peut rien inventer. On l'a toujours dit, rien ne se crée, tout se transforme et le but, c'est de transformer. Donc, créer, transformer, assembler, pour moi, c'est la même chose. Et je pense que les bons artistes de ce monde l'ont compris. Maintenant, au niveau de l'inspiration, comment assembler la musique métal et la danse classique? C'est possible de le faire, tout est possible. Donc, c'est là la complexité de la créativité, c'est lorsqu'on essaie d'assembler des choses qui sont à première vue difficilement assemblables. Et c'est un peu ce que je fais dans ma pratique. Et je prends plaisir à le faire. Et au départ, c'est extrêmement complexe parce que c'est difficile d'assembler l'univers de Walt Disney et la démonologie. Et c'est un peu ce que j'ai réussi à faire dans ma pratique. Et ça a été mon plus grand conflit au départ. Et comment faire maintenant pour trouver ces inspirations? Et c'est un peu le cœur de ma pratique parce que le fait de trouver ces inspirations me permet d'entrer de plus en plus en contact avec moi-même parce que les inspirations sont littéralement des fenêtres ouvertes sur notre univers. Et souvent, et tu l'as sûrement expérimenté déjà, Marie, de toute évidence, il y a quelque chose qui t'inspire profondément, mais tu n'as aucune idée pourquoi. Tu n'as aucune idée pourquoi et les inspirations peuvent t'inspirer agréablement et désagréablement aussi. Et dans un point de vue de shadow work, d'études de l'ombre et tout ça, c'est extrêmement fascinant. Les inspirations me permettent de me découvrir moi-même et du même coup de découvrir l'univers. C'est pourquoi l'inspiration a une place de choix dans ma pratique parce qu'elle me permet d'ouvrir des fenêtres sur mon paysage intérieur que je ne reconnais même pas encore à la base. Donc, pourquoi les démons m'ont autant inspiré, par exemple? Ça a été une première porte d'entrée dans ma pratique et ces portes d'entrée-là sont comme des petites lanternes sur mon chemin que je suis une après l'autre afin de me découvrir moi-même. Et c'est souvent là que ça devient complexe de créer une pratique à son image, c'est que, ah, de quelle manière je peux assembler toutes mes inspirations, parce que c'est difficile d'assembler ces inspirations, parce qu'à première vue, il y en a qui ne sont pas assemblables, si je peux dire ça comme ça. Mais bref, je m'éparpille un peu jusqu'ici, mais la chose à retenir, c'est de trouver ses inspirations peut sembler facile à la base, mais il est important d'entrer en contact avec son intuition et du même coup, d'entrer en contact avec son système émotionnel, à savoir qu'est-ce que je ressens face à l'univers de Disney, qu'est-ce que je ressens face à la démonologie, qu'est-ce que je ressens face à la sorcellerie en général. Et c'est là que ça nous permet de se découvrir, de se comprendre, d'en apprendre plus. Du même coup, de découvrir l'univers et de découvrir la pratique qui nous convient, qui nous appartient. Ce cheminement-là vers l'inspiration, vers la créativité, vers son cheminement de pratique, ce n'est pas, en fait, dans ce chemin, excuse-moi, dans ce cheminement-là, il n'y a pas de finalité. C'est le cheminement en soi. C'est la pratique en soi. Donc, ce n'est pas un cheminement que l'on termine pour ensuite pratiquer. Non, c'est littéralement la pratique. Donc, voilà. Et l'imagination, au travers de ça, c'est l'espace où on va pour expérimenter, pour découvrir des choses qui ne sont pas encore confirmées, qui ne sont pas encore inventées, qui ne sont pas encore comprises. Donc, il n'y a aucune invention qui n'aurait été découverte si ça n'avait pas été de l'imagination. Parce que l'imagination, c'est là où les scientifiques vont pour trouver de nouvelles notions. C'est là où les artistes vont pour créer de nouvelles pièces et ainsi de suite. Donc, voilà, l'espace, l'imagination, c'est l'espace où on est libre. On est libre de croire aussi. On est libre de se dire, OK, pour un instant, je vais croire à ça, même si je n'ai pas toutes les informations, même si je n'ai pas toutes les preuves présentement pour expérimenter, pour trouver vérité. Pour trouver vérité qui est peut-être objective, mais qui est peut-être subjective aussi, notre vérité à nous. Donc voilà, c'est un peu l'étape par étape pour traverser ces notions-là, pour bâtir sa pratique. Et voilà.
Et j'ai plein de
Donc.
questions du coup parce que
Oui,
là
moi aussi.
j'ai beaucoup beaucoup de questions.
C'est un long monologue à la bataille, tu dis papa.
Aucun problème. Non, y a plein de choses
Oui.
qui me sont venues. Alors déjà, c'est pas vraiment une question, mais c'est tu l'as évoqué au tout début quand tu parlais de créativité par rapport à l'art et tu disais la créativité c'est pas le propre de l'art. On peut là justement l'avoir dans plein d'autres domaines.
Oui.
Je trouvais intéressant de le repréciser, de le souligner parce que très souvent j'ai des personnes en face de moi qui sont paralysées par la créativité parce qu'elles relient la créativité à une recherche esthétique et à une valeur artistique, alors que justement, la créativité peut être utilisée dans n'importe quel domaine. Et voilà, je ne sais pas si tu avais envie de t'exprimer là-dessus.
Ben, de toute évidence, j'ai envie de m'exprimer sur le sujet. En fait, vois-tu, c'est peut-être un peu bizarre, là, mais on s'en va quelque part avec ce que je vais te proposer. Mais j'aime voir la créativité. J'aime essayer de comprendre la créativité au travers des animaux. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec Lucie sur le sujet pour comprendre la créativité. Et justement, ça m'a aidé à la distancier un petit peu du domaine de l'art et de l'artiste en général et de
Juste
l'esthétisme. Oui.
préciser à nos auditeurs que Lucie,
Oui.
qui est
Ah oui,
Lucie?
c'est mon familier, c'est ma chienne
Ok.
Lucifer, c'est mon animal de compagnie, c'est vrai. Moi, je prends en considération que tout le monde la connaît, mais non. Donc voilà, me distancier un petit peu justement, puis pour m'aider à comprendre la créativité en général, j'ai beaucoup travaillé avec mon chien. Donc voilà, avec Lucie. Et parce que l'animal est certes doté d'une certaine imagination, mais n'est pas doté de créativité. Et c'est ça qui est intéressant de voir à quel point l'humain utilise constamment son en fait son potentiel créatif. Et c'est en le comparant avec le non-potentiel créatif de l'animal que c'est intéressant d'aller plus loin dans l'étude. Ce que je veux dire, c'est que si je présente de la nourriture à ma chienne Lucifer, mais pour elle, il n'y a qu'une simple et seule solution, soit manger. Tout, c'est la seule et unique avenue pour ma chienne Lucifer, c'est de manger sa nourriture. Autrement, si on place de la nourriture, par exemple une pomme dans les mains de l'être humain, il y a une multitude d'options qui s'offrent à nous et c'est grâce à la créativité qu'on est apte à entrer en contact avec toutes ces opportunités-là. Donc, si j'ai une pomme, est-ce que je la partage? Est-ce que je la mange, évidemment? Est-ce que je la cuisine? Est-ce que je la coupe d'une certaine manière? Est-ce que j'en fais un projet créatif? Est-ce que j'écris un texte sur l'inspiration que m'invoque cette pomme-là? Et ainsi de suite. Donc, la créativité, on l'utilise dans chacun de nos mouvements, dans chacun de nos dans chacune de nos actions et ainsi de suite. Et je pense que c'est important de voir à quel point la créativité prend de la place au travers de notre quotidien, autant que dans notre pratique. Donc voilà, c'est un peu la manière, j'aime ça, l'expérimenter de cette manière-là, parce qu'on réussit toujours à expérimenter les notions comme ça, d'après leur contraire. Et c'est là que Lucie, mon chien Lucifer, en fait, est venu m'aider à essayer de comprendre justement cette notion-là qui est la créativité. Elle n'est pas seulement dans, elle n'apparaît pas seulement dans l'aspect artistique et esthétiste de la chose, mais dans la résolution de problèmes et dans la découverte de nos opportunités aussi.
Merci beaucoup. Et
Un plaisir.
il y avait un deuxième, quelque chose qui m'a fait tilt, c'est que je pense que ce serait intéressant si tu le peux, parce que sûrement que tu as envie de garder des choses pour toi aussi, et ce qui est normal, tu nous as fourni un exemple d'un assemblage qui est de la pratique avec Walt Disney et une entité démonique. C'est vrai que je pense que pour comprendre concrètement cet aspect de la créativité, de l'inspiration, de l'imagination dans une pratique magique, je trouverais cool qu'on prenne un exemple.
Ah, ça me ferait vraiment plaisir parce que vois-tu, j'ai rarement la possibilité de parler de tout ça, bien que j'en parle ici et là. Bref, comme je te disais, ça l'a été. Au départ, en commençant tout ça, je cherchais un peu ma voie, autant spirituelle que créative et tout ça pour mes projets YouTube, et etc. Puis je me suis dit, je fais la liste de l'entièreté de mes plus grandes inspirations et mon but est de créer un tableau d'ensemble avec tout ça pour me définir, moi autant créativement que spirituellement, et d'être en mesure de partager tout ça de manière unique, donc à ma manière. Et le problème, le conflit que j'ai eu, le plus grand conflit que j'ai eu, ça a été d'assembler les deux plus grandes inspirations, soit l'univers de Walt Disney et la démonologie. Comment faire pour assembler ces deux univers-là qui sont tellement contradictoires, tellement différents, tellement lointains sur le spectre de polarité? Et pourtant, la clé se trouvait directement devant moi. Bien évidemment, je peux représenter mon terrain de jeu imaginaire, mon laboratoire d'expérience par l'île qui est Neverland. Donc, mon imaginaire à moi, mon laboratoire est représenté par l'île de Neverland qu'on retrouve dans l'univers de Peter Pan, évidemment. Donc, ce territoire-là m'a permis justement d'assembler mes inspirations. Et les entités qu'on retrouve sur cette île-là, qui est de toute évidence imaginaire en soi, autant à l'intérieur de moi qu'à travers l'histoire de Peter Pan, ce qui est bien, les entités sont représentées par des entités démoniques. Donc, ça a été la manière pour moi d'assembler tout ça, de relier les deux et de me permettre d'expérimenter mes intérieurs, mes propres entités à moi, autant avec la démonologie qu'avec l'univers de Walt Disney. Et c'est ce que je présente aujourd'hui. Donc, les 9 entités qui se trouvent sur ces 9 territoires-là que j'ai construits moi-même imaginairement sur l'île de Neverland, que j'ai retravaillé, remodelé à mon image. C'est le thème de mon journal, c'est la structure, ma structure de pratique est littéralement basée sur ces 9 entités-là qui se trouvent sur cette île-là. Et cette île-là me permet aussi de méditer, d'aller visiter des territoires qui m'appartiennent, d'en découvrir plus sur moi-même, et ainsi de suite. Donc, c'est la manière que j'ai assemblé ces inspirations-là. Mais c'est un beau travail à faire aussi d'essayer de voir, OK, par exemple, Wes Anderson, qui est un cinéaste important dans mon cheminement aussi. C'est intéressant de voir les plus grands artistes, ceux qui nous inspirent le plus, et de voir, OK, où est-ce qu'il a pris toutes ses inspirations, de qui ou de quoi il s'est inspiré pour construire le chef-d'œuvre qui est devenu l'intégralité de son art, et ainsi de suite. Donc, c'est le fun de voir ça aussi de cette manière-là. L'univers de Zelda aussi, le créateur de cet univers-là, où est-ce qu'il est allé chercher toutes ses inspirations pour créer cet univers-là, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu la manière que j'ai tenté d'assembler tout ça à ma manière, en fait.
D'accord. Et du coup, ta créativité, ça a été l'assemblage de ces univers,
Ouais.
ou un univers dans lequel tu peux voyager, explorer, méditer.
Ouais.
Et est-ce que tu peux créer de nouvelles choses à partir de cette création? Je ne sais pas si c'est
Oh,
clair ce que je
c'est
raconte.
bon ta question. Oh, c'est bon ta question, Marie. C'est incroyable ta question parce que vois-tu, et c'est là qu'on va parler de la fameuse série sur les entités. Et c'est là, vois-tu, parce que c'est directement en lien avec ça. J'ai commencé une série sur YouTube sur la création d'entités et ceux qui me suivent savent que j'ai dû arrêter cette série-là. Non pas parce que je manquais d'intérêt et tout ça, au contraire, c'est que je me suis trompée dans le processus. Je me suis trompée dans le processus. Je me suis rendue compte avec l'expérience, les découvertes, l'étude et tout ça, que il est soi-disant impossible de créer quoi que ce soit et qu'on ne crée pas des entités, mais qu'on les découvre. Et c'est pourquoi j'ai dû arrêter cette série-là et je prévois la terminer ou la recommencer ou la transformer ou la remodeler avec ces nouvelles notions-là et j'ai vraiment envie de partager les erreurs que j'ai faites. Les erreurs que j'ai faites là-dessus parce que je suis vraiment allée très, très, très loin dans l'expérience, très loin dans la découverte. Et je me suis même posé la question, est-ce que la magie du chaos s'est trompée en soi? Et je suis rendue là dans mes études, à savoir, parce que vois-tu, la création d'entité, c'est une proposition majeure de la magie du chaos qui est proposée dans tous les livres sur la magie du chaos et tout ça. Et là, je suis après étudiée à remettre en question la magie du chaos en soi. Est-ce qu'elle s'est trompée? En fait, moi, pour sûr, de mon côté, je me suis trompée parce que on ne peut pas créer quelque chose de toute pièce. On ne peut qu'assembler pour découvrir. On ne peut que découvrir des choses, en fait, dans cet univers-là. Et c'est ça qui est intéressant et ça m'a ouvert une multitude de portes différentes. Est-ce que je suis en mesure présentement aujourd'hui, Marie, de te donner toutes les notions et les preuves possibles? Non, certes, mais j'ai assez d'études présentement et de découvertes faites pour être en mesure de dire que je me suis clairement trompée sur la création d'entités, mais plutôt la découverte d'entités.
Ouais,
Donc, voilà.
c'est hyper intéressant et moi ça me ramène à, alors on a une pratique qui est assez différente, c'est
Oui.
certain, mais ça me ramène quand même à ma pratique, puisque moi je dis toujours que la sorcellerie, c'est trouver l'équilibre dans le chaos. Et que pour trouver l'équilibre dans le chaos, c'est justement l'idée que tu as mis le doigt dessus, que on ne fait que suivre, accompagner, transformer, mais qu'on ne crée jamais rien. Et que finalement, si on devait créer ou supprimer, on serait dans le déséquilibre. Et que si on veut être dans le maintien de l'équilibre, on ne fait que suivre finalement les processus, par exemple, de transformation.
Oui, exactement. Puis vois-tu, je travaille beaucoup avec l'astrophysique, l'astronomie aussi et tout ça, et c'est les mêmes concepts. C'est les mêmes exacts concepts. Puis pour partager une toute petite anecdote là, vraiment intéressante, je suis allée dans une grosse conférence d'un astrophysicien important au Québec, et j'allais là en me disant, je comprendrais rien de la conférence parce qu'on parlait littéralement de la création de l'univers et tout ça d'un point de vue complètement astrophysique. Et je suis arrivée là en tremblant avec mon cahier de notes de dire, je comprendrais jamais rien. Mais Pourtant, j'ai été la seule personne sur une trentaine de personnes à être capable d'échanger avec cet astrophysicien-là parce que c'est les mêmes notions, c'est le même parcours que le parcours de la conscience et de la spiritualité que j'expérimente, et ce, depuis 6 ans, à tous les jours, jour et nuit. Et c'était fascinant que j'étais, moi, petite fille qui connaît absolument rien à cet univers-là, d'être capable d'échanger aussi bien avec cet astrophysicien-là, et en connaissance de cause, parce que c'est les mêmes notions que le développement de la conscience et le développement de l'univers, et justement le fait de l'équilibre au niveau scientifique est aussi important que l'équilibre au niveau spirituel, et tout ça, c'est fascinant. Donc, voilà.
Merci beaucoup.
Ça me fait tellement plaisir.
Oui. Et j'avais...
C'est les plus beaux sujets du monde.
C'est clair. Non, non, et puis c'est fort de voir tous les liens qu'on arrive à faire et cette idée de tout et d'unité.
Mais c'est ça, justement, on arrive à les faire grâce à la créativité. Ouais. On arrive à créer des liens grâce à la créativité.
Complètement. Il y a un point qui m'a soulevé question et tu as commencé à y répondre, mais pas complètement. Oui, c'est quand tu parlais de l'inspiration. Comment tu as décrite l'inspiration? Moi, j'ai tout de suite pensé, mais en fait, elle parle de l'intuition. Et après ça, tu as parlé de l'intuition, mais je n'ai pas réussi à comprendre du coup la différence finalement entre les deux, parce que j'ai vraiment eu le sentiment que c'était la même chose.
Vois-tu, Marie, on rentre dans un gros sujet et vois-tu, je pourrais te parler de ça pendant des nuits et des jours, mais il n'y a aucune différence entre l'inspiration, ses émotions, sa boussole émotionnelle, l'intuition, ses désirs, ses besoins et ses joies. Mm-hmm. Il n'y a aucune différence entre tout ça. Et c'est vraiment intéressant parce que les besoins et les désirs de l'être humain sont littéralement ce qui nous mouvoie dans l'espace. Chacun de nos mouvements sur Terre est dirigé par un besoin et par un désir, du même coup par les inspirations. Ce qui nous inspire aussi crée du mouvement à l'intérieur de nous. Ça crée mouvement et motivation. Aussi de se lever le matin pour créer, pour même aller déjeuner, ça prend une inspiration quelconque, c'est dirigé par un besoin et tout ça. Donc, nos besoins aussi sont égaux à nos joies sur Terre et du même coup à notre but ultime en tant qu'être humain, notre purpose, si je peux dire ça en anglais, là, je suis désolée, mais il n'y a pas vraiment de mot en français. Il y a mission, mais j'aime pas vraiment ce mot-là, donc... L'inspiration, on va l'utiliser dans le cadre là, pour que ce soit plus simple, mais nos inspirations nous mènent à notre mission de vie en tant qu'être humain, si je peux dire ça comme ça. Nos besoins, nos désirs nous mènent à notre mission de vie en tant qu'être humain. Notre intuition est là pour ça aussi, donc il n'y a aucune différence entre tout ça. Donc, le moyen de trouver inspiration, intuition, c'est d'entrer en contact avec notre boussole émotionnelle qui est aussi la même chose, qui est là pour nous guider, pour nous aider à se mouvoir dans l'espace, pour prendre de l'expansion. Donc, j'essaie de le résumer le plus rapidement possible, le plus simplement possible, mais vois-tu, je pourrais écrire une série d'essais de 10 livres sur cette proposition-là, sur laquelle je travaille depuis presque un an déjà. Donc, voilà, c'est une grosse question, mais j'essaie de la résumer le plus simplement possible. Mais bref, il n'y a aucune différence entre tout ça.
Ouais, mais c'est une grosse question aussi parce que c'est le cœur même de la pratique, d'autant plus quand elle est solitaire. C'est-à-dire que bah, moi, même si on n'a pas les mêmes pratiques, je ne suis pas une tradition, donc je suis une pratique aussi solitaire. Et c'est clairement la source de toute la pratique, c'est l'intuition. Et c'est toute la problématique quand on se lance, c'est parce qu'on recherche des réponses à l'extérieur de soi, dans les livres, ou sur les réseaux sociaux, ou sur les sites internet, alors que la réponse à toutes nos questions, elle est en nous.
Exactement. Puis aussi, c'est ça, puis souvent, il y a certaines lanternes, j'appelle les petites, mes petites personnes gentilles qui me suivent constamment, mes petites lanternes. Mais Il y a beaucoup de pratiquants ou de lanternes, en fait, qui ont de la difficulté à entrer en contact avec leur intuition. Tu as sûrement aussi de ton côté beaucoup de messages et de commentaires comme ça, comme quoi les gens ont de la difficulté à entrer en contact avec leur intuition. Mais
Complètement.
d'entrer en contact avec leur intuition, c'est une question d'émotion. Les émotions, le système émotionnel est une boussole, littéralement. Quand on a des émotions agréables, c'est qu'on est sur la bonne piste. Quand on subit des émotions désagréables, c'est que il y a du travail à faire pour se rediriger. Donc, c'est là l'émotion. Souvent, on se fait demander beaucoup, est-ce que je suis à la bonne place? Tu sais, dans les tirages de tarot, tout ça, est-ce que je suis à la bonne place? Tu n'as pas besoin de tirage de tarot pour savoir si tu es à la bonne place ou non. Comment te sens-tu? Littéralement. Et ça, c'est l'intuition. C'est de dire, ah, OK, j'ai un inconfort, je vis une émotion désagréable. Mon intuition me dit que je ne suis peut-être pas à la bonne place. Donc, tout ça est relié. Quand on se pose la question, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis sur la bonne piste? Comment te sens-tu? Ton système émotionnel, c'est littéralement l'intuition. Ça ne vient pas d'une forme de pensée supérieure et tout ça, là, c'est un peu plus scientifique et psychologique ce que je partage, mais littéralement, l'intuition ne vient pas d'un nuage d'humidité divin qui est là pour te dire si oui ou non tu es à la bonne place. Non, c'est littéralement ton système émotionnel. Le système émotionnel, c'est la voix, c'est le langage de l'intuition. Donc, c'est la manière de rentrer en contact avec son intuition, c'est d'avoir accès à son système émotionnel. Et ses inspirations, les inspirations sont là aussi pour nous aider à rentrer en contact avec ce système-là. Mais ça, c'est infini. Et j'ai tellement hâte de passer du temps sur ça pendant la retraite. Parce qu'on va avoir beaucoup plus de temps. Et là, je sais que je m'emporte. Là, je suis désolée.
Aucun
Je
problème.
m'emporte.
De toute façon, j'ai plus beaucoup de questions. Il y en a deux qui me restent encore. En tout cas, il y en a une qui m'intrigue beaucoup. Tu as parlé du cheminement, que c'était un cheminement en soi et que du coup, il n'y avait pas de recherche de finalité, de fin. Voilà. Et je me posais la question par rapport à ma pratique à moi, où ben, quand je fais un rituel, il y a un début et il y a une fin et il y a la recherche d'un résultat. Par exemple, je n'importe quoi, la libération d'un schéma ou l'activation de l'abondance. Comment ça se passe du coup dans le cadre de tes travaux où finalement il n'y a jamais de fin en soi?
Oui, ben en fait, vois-tu, il y a, mettons, on peut prendre le temps de différencier un petit peu sa structure de pratique spirituelle et les travaux spirituels. Donc, spirituel ou occulte ou de sorcellerie ou peu importe, là, j'inclus tout ça. Donc, il y a la pratique, la structure au complet, la fondation et les travaux magiques. Donc, je mettrai les rituels et les moments consacrés, les sabbats, les esbats, tout ça dans les travaux spirituels. Et moi, ce que je parlais un petit peu tout à l'heure, c'était plus au niveau de la pratique en général. Mais ça, c'est tout dépendamment de la manière que l'on définit sa propre pratique, parce que même, je suis sûre que toi, Marie, tu as une définition précise de ce qu'est ta pratique et tout ça. Peut-être que certains d'entre nous, cette définition-là évolue et d'autres que non, et c'est tout à fait OK. Mais par contre, moi, ma définition pratique, c'est et la suivante, soit se découvrir soi-même et du même coup découvrir l'univers. Donc, ça, c'est la fondation primaire de ma pratique et tout le reste évolue au travers de ça. Et c'est ça que je te dis justement que cette pratique-là n'a pas de fin en soi parce qu'il y a toujours évolution. Je vais toujours faire les affaires de manière différente. Je vais ajouter des notions, je vais enlever des notions, je vais faire de nouvelles expériences. Et c'est ça qui n'a pas nécessairement de finalité, de destination finale, de dire, ah, maintenant, aujourd'hui, la pratique que j'ai, ça va rester la même pour le
Ah
restant de mes jours.
oui.
Donc, c'est un peu ça. Il y en a peut-être justement, comme par exemple dans la Wicca ou des trucs comme ça, qui sont très structurés, traditionnels et tout ça. Il n'y a pas nécessairement d'évolution au niveau de la structure. Il y a une grande évolution qui se fait à l'intérieur des pratiquants et tout ça au niveau intuitif, énergétique et ainsi de suite, mais la structure reste sensiblement la même parce que là, on parle de tradition. Mais au niveau d'une pratique comme la magie du chaos, il n'y a pas de limite et ça évolue constamment. Et moi, du jour au lendemain, je peux dire, je mets à la poubelle absolument tout ce que j'ai créé comme structure et je recommence à zéro et c'est OK. Un peu plus difficile à faire en Wicca, surtout en coven. Tu vas pas arriver à ton coven puis dire, OK, ben on scrape tout aujourd'hui puis c'est fini, tu sais. Mais bref, voilà. Et les travaux magiques, bien sûr, qu'il y a une finalité en soi. Et même au niveau du shadow work, il y a une certaine finalité en soi de se dire, OK, je pose une intention, j'ai un but précis. Lorsque j'ai atteint ce but précis-là, ah, il y en a un autre qui est invoqué et ainsi de suite. Donc là, on cherche une certaine finalité. Et pas en fait une finalité, mais la fin d'un cycle, dans laisser de la place à un nouveau et tout ça. J'ai completion en anglais. Donc, la complétion, qui n'est pas un mot français, mais qu'on peut l'utiliser quand même. Genre, c'est ça. Donc, voilà. C'est un peu ça que je cherche dans mes travaux magiques, mais aussi au niveau de ma structure de définition de pratique. Elle évolue constamment. Et je lui laisse la liberté d'évoluer aussi.
Oui. Du coup, c'est beaucoup plus clair, en effet, cette idée de...
Ouais.
Que la structure évolue, mais que dans cette structure évolutive, tu peux faire des travaux qui t'amènent à passer des étapes, en fait.
Oui, c'est ça, à réaliser des buts. J'ai des buts bien, bien précis dans ma pratique et tout ça. Et c'est important de les atteindre parce que c'est motivant aussi. Parce que si on n'atteint aucun but, ben là, ça devient plus facile d'abandonner sa pratique.
C'est sûr. Alors, j'ai une dernière remarque par rapport à tout ce que tu m'as dit et tout ce que tu nous as dit. C'est quand tu parlais de l'imagination. J'avoue que c'est l'aspect où ça a été peut-être plus difficile pour moi de le positionner par rapport aux autres. Je vais te dire ce que j'ai compris et comme ça, tu pourras me dire si mon analyse est bonne.
Oui.
C'est que j'ai eu l'impression que l'imagination, c'était ce qui finalement permettait de créer par rapport à l'assemblage que tu pouvais faire de tes inspirations.
C'est dur à décrire, OK? Mais l'imagination, comme je te dis, c'est un terrain de jeu, là où tu t'offres la confiance, là où tu t'offres la possibilité, en fait, de faire confiance à ce qui vient. L'imagination, au niveau neurologique, là, c'est littéralement ce qui va te permettre d'imaginer un chien dragon. On peut dire ça comme ça, à sa plus simple forme. C'est ce qui va te permettre d'imaginer, de voir dans ta tête l'image d'un éléphant bleu qui fait du surf sur un bol de céréales. C'est ce qui va te permettre de voir l'image dans ta tête. C'est ça l'imagination.
OK.
Au niveau neurologique et tout ça. D'un point de vue imaginaire, là où on peut aller jouer dans l'illusion, c'est l'espace où tu te permets de laisser ce qui vient t'inspirer. Donc, c'est l'espace où je me dis, OK, les synchronicités, je peux te donner un exemple concret. Je vois une synchronicité, j'ai l'idée en moi qui vient que cette synchronicité-là a peut-être un message à m'offrir au niveau de ma pratique ou de mon quotidien ou ainsi de suite. L'imagination, c'est là où je vais pour dire, OK, je laisse cette inspiration-là vivre en moi. Je la laisse naître. Je la libère. Et je lui fais confiance qu'elle est là pour m'apprendre quelque chose, m'inspirer quelque chose et tout ça. Donc, l'imagination vient collaborer souvent avec la confiance. Et souvent, quand les gens disent, oh, je n'ai pas d'imagination, en fait, c'est faux. C'est pas qu'on n'a pas d'imagination, c'est qu'on a des résistances face à l'imagination. Donc, lorsqu'on a des problèmes à se laisser, à se libérer face à cette imagination et à la laisser vivre au travers de nous, à se laisser expérimenter ce terrain de jeu-là, c'est parce que il y a des résistances en nous qui nous proposent que « Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est juste mon imagination. » Ah, ben non, c'est impossible, là. C'est pas prouvé scientifiquement et tout ça, tu sais. Imagine si tous les inventeurs et les plus grands visionnaires et les plus grands scientifiques de ce monde s'étaient dit « Non, j'irai pas là parce que c'est pas prouvé. Il n'y aurait jamais eu de nouvelles découvertes sur Terre. »
Bien sûr.
Donc, l'imagination sert à ça. L'imagination sert aussi à créer des liens et à combler les manques. Par exemple, si on a une conversation, toi et moi, Marie, de notre côté du monde et qu'il y a beaucoup d'interférences, comme à l'habitude, dans notre Wi-Fi et tout ça, ben moi, avec mon imagination, je suis capable de combler les moments où je te perds pour avoir accès à l'entièreté de la conversation. Par exemple, c'est un exemple à laquelle l'imagination peut venir combler les moments de flou, autant visuellement qu'au niveau du langage et tout ça. Mais bref, là, on rentre dans l'espace plus technique de l'imagination, et encore là, je pourrais t'en parler pendant des millénaires. Mais je ne sais pas si ça clarifie un petit peu ton idée sur l'imagination, si tu as d'autres questions à ce niveau-là.
Bah, c'est pas tant une question, c'est que moi, comment j'aborde le sujet de l'imaginaire, je ne sais pas du tout si tu vas me rejoindre ou pas. Et c'est à mon avis ce qu'on va découvrir aussi pendant la retraite, puisque de mon côté, je vais amener les travaux sur les états de conscience modifiés, qui
Oui.
pour moi, en fait, est un moyen de voyager dans d'autres dimensions, dans d'autres espaces-temps, et que pour faire ce voyage, on va faire appel à la visualisation et à l'imagination. Et que finalement, pour moi, l'imagination est un support pour accéder à d'autres niveaux de conscience. Et c'était ça aussi que j'essayais de voir s'il y avait des liens, en fait, par rapport à ce que tu exprimais.
Ouais. Mais en fait, c'est sûr que l'imagination a à voir dans les états, a en fait sa place dans les états de conscience modifiés. Et là, ça devient tellement un sujet, un autre sujet vraiment intense que j'ai hâte de travailler avec toi dans la retraite. Mais vois-tu, il y a aussi une différence entre l'imagination et l'imaginaire. Donc, l'imaginaire est un peu un espace où on a la possibilité d'aller se perdre pour expérimenter et tout ça. L'imagination, c'est un peu plus comme je te disais, venait servir à la créativité. Donc, on peut voir l'imaginaire d'une manière très, très, très intangible et l'imagination d'une manière un peu plus psychologique et neurologique et tout ça. Donc, là, je ne veux vraiment pas m'égarer sur tout ça. Puis, si on embarque les ECM, là-dedans, ça va être un conflit général, je pense, de monologue et tout ça, mais je ne veux pas trop m'aventurer sur le sujet. Mais c'est sûr que l'imagination a sa place dans cet univers-là, mais je pense que je vais m'arrêter là.
Non, mais je pense que déjà, on a eu beaucoup de pistes de réflexion pour justement nourrir nos inspirations et assembler tout ça. Donc, merci beaucoup.
Ça me fait grand plaisir.
Je sais pas si tu avais envie de conclure par quelque chose ou si déjà, finalement, on a conclu avec l'imaginaire.
Ben en fait, pas que je proposerais une manière d'inviter la créativité dans sa pratique parce qu'elle est déjà là. Ce que je proposerais en fait pour finir, c'est littéralement de prendre conscience à quel point la créativité fait partie de nos pratiques, même si on n'a pas conscience qu'elle est là. À quel point la créativité est une notion, un état, un pouvoir nécessaire à toute pratique. Puis ça me fait penser, tu sais, on a déjà parlé, je pense, ensemble de ça, de l'abracadabra, tu sais, qui veut dire je crée par la parole. Puis la créativité, c'est un peu ça, c'est littéralement le pouvoir de créer, le pouvoir de l'abracadabra, si je peux dire ça comme ça. Donc ça fait partie de toutes les pratiques et même dans les pratiques qui sont plus traditionnel et tout ça, je pense que c'est intéressant de lui faire une place. Encore là, je ne veux pas être la personne qui vient démolir les traditions les plus anciennes de la magie, mais pourquoi pas tenter l'expérience de réaliser à quel point la créativité fait partie de nos pratiques et pourquoi pas en faire un pilier de nos fondations afin de solidifier le tout. Donc voilà. Je pense que c'est une question de prendre conscience, simplement, parce qu'elle est déjà là.
Ouais, complètement. Oui, comme beaucoup, hein, comme l'intuition, comme
Oui.
finalement, on pourrait le dupliquer un peu à tous les sujets qu'on a évoqués.
Oui, qui sont toutes la même chose en soi, finalement.
Ouais,
Tout
complètement.
est relié, tout est la même chose.
Complètement.
Ouais.
Merci beaucoup, Bataille, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé de ta pratique.
Ah, c'est toujours un plaisir, toujours un plaisir.
Il est maintenant temps de conclure ce podcast. Encore un immense merci à Vébataille d'avoir accepté cette invitation, d'avoir pris le temps de partager avec nous de sa pratique magique. J'espère que ça vous aura inspiré et que vous aurez pu découvrir de nouvelles choses. J'apprécie la diversité que l'on peut apporter dans ce podcast puisque le premier épisode, disponible sur beaucoup de plateformes d'écoute de podcast si vous voulez aller l'écouter, était sur la thématique de la Wicca avec le grand prêtre wiccan d'un coven français, Andranos. Aujourd'hui, nous avions Vébataille avec nous qui a une pratique qui se rapproche beaucoup plus de ce que l'on appelle la magie du chaos, qu'elle nous a expliqué d'ailleurs dans ce podcast. Et donc ça nous permet d'avoir vraiment une grande diversité, une possibilité de pratiquer. On ne va bien sûr pas s'arrêter là puisque le troisième épisode est déjà prévu. Nous sommes en train de nous organiser pour l'enregistrement et on va aller vers encore une toute autre pratique. Donc voilà, je suis juste heureuse et ravie de pouvoir échanger avec ces personnes et de pouvoir vous le retranscrire en espérant que ça vous apporte. Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast C'est quoi ta magie? Et je vous dis à bientôt donc pour la prochaine saison, le prochain trimestre, pour l'épisode numéro 3 de C'est quoi ta magie?
C'est quoi ta magie?
C'est quoi ta magie?
C'est quoi?
C'est quoi?
C'est quoi?
C'est quoi ta magie?
C'est quoi ta magie?